Dimanche 4 février 1979. 17e leçon de catéchisme pour adultes par Monsieur l'abbé Montarien en la chapelle polonaise rue Saint-Honoré à Paris.
C'est à propos des miracles que je veux vous parler. Les fameux miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais qu'ils étaient la preuve de ses affirmations. Notre Seigneur a dit qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Je le crois parce qu'il a fait des miracles. Mais ces miracles, je les connais par les évangélistes. Est-ce que ces évangélistes me racontent la vérité? Voilà ce dont je veux traiter tout de suite. Nous avons la foi. Et les raisons de notre foi, nous les avons trouvées ensuite. J'ai été baptisé à 3 semaines, c'était un peu tard, il faut l'avouer. Et puis, au moment où ma raison s'est éveillée, j'ai découvert que j'avais la foi. Je l'avais avant, j'ai découvert que j'avais la foi. Au fur et à mesure que je pouvais comprendre, ma mère m'expliquait le contenu de la foi. Elle ne me donnait pas la foi je l'avais reçue au baptême. Et puis ensuite, je suis allé au catéchisme. Alors, j'ai eu la chance de tomber sur un prêtre très très bien, qui a développé le contenu de ma foi. Et puis ensuite, j'étais un peu plus vieux, j'ai affronté certaines difficultés qui ne m'ont d'ailleurs pas touché. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu de doute contre la foi, de doute sérieux. Je dis par la grâce de Dieu parce que je ne souhaite pas du tout connaître cette épreuve. Ce sera bien comme le bon Dieu voudra, mais je préférerais ne pas connaître cette épreuve. Alors j'ai, pour défendre cette foi qui n'était pas menacée chez moi, mais que je voulais établir chez les autres, je cherchais des raisons. D'ailleurs, on m'a aidé puissamment. On m'a fait des cours sur la question. Bref, je vais vous dire comment, en principe, nous devrions atteindre la foi, arriver à la foi, plutôt arriver à ce point où Dieu la donne. Mais après avoir annoncé cela, je suis obligé de dire que Dieu se moque pas mal de tous ces plans-là. Il met tout à l'envers, comme je viens de vous le rappeler à mon propos. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas, il n'attend pas que je l'éprouve, que ce soit bien solide, que ce soit bien établi. Voilà que tout à coup, je crois, n'est-ce pas? J'ai eu un certain nombre d'indices, il ne suffisait pas pour que tout soit propre, pour que tout soit net. Vous savez, une introduction, premier point, deuxième point, troisième point, et voilà que j'ai la foi, j'ai eu la foi avant de raisonner. La foi m'a été donnée avant que ma raison ne s'éveille. Mais enfin, disons comme cela, dans l'abstrait, comment les choses devraient se passer. Je me trouve devant un certain nombre d'écrits que les gens qui ont la foi, parce que je suppose que je ne l'ai pas, que les gens qui ont la foi disent qu'ils constituent le Nouveau Testament. Alors il y a des lettres. Il y a quatre récits que ces gens-là appellent des évangiles. Ce sont des écrits. Moi qui n'ai pas la foi, je les considère comme des écrits qui peuvent être intéressants pour un historien. Oui, on les étudie, comme certains étudient Tacite. Tacite les aide beaucoup pour l'histoire romaine. Ces quatre écrits, puis ces lettres, pourraient beaucoup m'aider pour l'histoire des débuts du christianisme. C'est intéressant, le christianisme. Ça a eu beaucoup d'influence, c'est très répandu. Bref, je n'ai pas la foi, mais ces écrits sont intéressants. Il me raconte un certain nombre de choses concernant un personnage qui s'appelle Jésus. Ce sont les évangiles, cela. Les lettres sont écrites en telle et telle circonstance et par des gens qui croyaient en ce Jésus. Des amis des autres, de ceux qui ont écrit les évangiles, si vous voulez. Que valent ces écrivains? Parce que si je suis un historien, j'aurais besoin de savoir ce qu'ils valent, ces écrivains, parce que ce Jésus, qu'est-ce que c'est? A-t-il existé déjà? Je dis cela parce que, à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, on a nié l'existence de Jésus. Pas beaucoup, hein. C'est un type qui s'appelait Couchou. C-O-U-C-H-O-U-D. Couchou a nié l'existence de Jésus-Christ. Il a prétendu que Jésus-Christ n'avait pas existé et qu'il avait été fabriqué de toutes pièces par ses premiers disciples. Fabriqué de toutes pièces, comme cela. Comme je suis un type sérieux, à partir de ces récits, à partir de ces écrits, je me décide à croire que Jésus a bien existé. Tout de même, ce serait aller contre les faits. Hein. Alors je me débarrasse de cette objection parce que réellement elle n'est pas sérieuse. Alors cet homme dont on me parle, on me dit des choses sur lui. On me dit qu'il a dit de très très belles choses, mais ces belles choses, est-ce qu'il les a dites vraiment ou bien est-ce que ce sont ses partisans qui les ont inventées? Et puis, ces gens-là qui écrivent me racontent qu'il a fait des miracles. C'est beau tout cela. Mais des miracles tout de même, je voudrais voir. Alors la deuxième question qui se pose, puisque la première était celle-ci, a-t-il existé et que je l'ai mise de côté tout de suite parce que ça ne me paraît pas sérieux. La deuxième question est celle-ci, que valent ces écrivains? Et tout d'abord, en quelle date ils ont écrit leurs affaires? Parce que vous comprenez bien que si ces textes ont été composés vers l'an 150 ou vers l'an 200, ça n'a plus aucune valeur. Est-ce que ce sont de vieux textes? Et puis, que valent ces écrivains, encore une fois? Est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu un coup de soleil, comme je le disais tout à l'heure, hein? Est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu fous? Ça se trouve, cela. Surtout parmi les fondateurs de religion, on trouve des illuminés facilement. Alors, que valent-ils? Et puis aussi, que vaut ce texte qui m'est parvenu? Est-ce qu'il est exactement le texte qu'ont écrit ces hommes? Ce Jean, ce Marc, ce Luc, etc. Ce Paul. Est-ce que le texte m'est parvenu intact? Alors je vais essayer de reprendre tout cela en essayant de ne rien oublier, mais je me méfie de moi. Alors tout d'abord pour la date, nous en avons déjà parlé à propos des évangélistes. Je vous ai dit que les trois synoptiques avaient été composés, disons, entre l'an 59 et l'an 70, plus précisément, bien sûr nous n'aurons pas d'ici longtemps une certitude absolue, autour des années 61, 62, 63. Donc c'est très très proche des événements. Quant à l'autre, il a été composé beaucoup plus tard, autour de l'ensemble, et par un vieillard. Un vieillard, et puis les trois premiers écrits me sont garants de l'autre. Je puis aussi dater les épîtres de saint Paul. Vous serez peut-être étonné que les épîtres de saint Paul sont plus anciennes que les évangiles. Dans votre Nouveau Testament, elles sont disposées après les évangiles et après le livre des Actes. Mais saint Paul a écrit à ses correspondants avant que les évangiles ne soient composés. Disons que la première des épîtres qu'il a écrite, peut-être l'épître aux Galates, a été écrite en 49. Et puis ensuite, les autres lettres viennent l'une après l'autre. Ce sont donc de très très vieux écrits, très très proches des faits qu'il raconte. Sont des témoins tout proches, si vous voulez. Hein? Je me débarrasse aussi tout de suite de la question du texte. Ce texte que j'achète à un Nouveau Testament dans une librairie, eh bien, on me présente un texte, là, qui est une traduction sur le grec, le texte grec. Que vaut-il? Est-il exactement celui de saint Paul, celui de saint Luc, celui de saint Marc? Alors là, on a fait des études très très précises. Les plus anciens écrits que nous ayons, comment dire, le plus vieux est à dater de l'an 120. Mais il n'est pas très gros. Hein. Je crois que, en ce qui concerne les auteurs profanes, des Cicéron, des Virgile, les manuscrits que nous avons sont beaucoup plus tardifs. Ils datent de l'époque carolingienne, disons l'an 800, l'an 900. Les textes sacrés, enfin les textes que les chrétiens qui ont la foi appellent sacrés, nous présentent des manuscrits beaucoup, beaucoup plus vieux. Le plus ancien, vous ai-je dit, c'est un papyrus qui est à peu près grand comme ma main et qui date de l'an 120. On l'a trouvé dans les sables à proximité d'Éléphantine. Et ce sont ces sables qui l'ont conservé, ce papyrus, qui s'appelle, pour cela, le papyrus d'Éléphantine. C'est un morceau de l'évangile de saint Jean. Un morceau de l'évangile de saint Jean. On peut dater cela, les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste, mais les spécialistes vous disent 120, autour de l'an 120. Si l'évangile de saint Jean a été composé en l'an 100, Eh bien, cette copie, car c'est une copie, ce n'est pas l'original, cette copie qu'on trouve en Égypte, eh bien, elle est séparée de l'original de 20 ans, simplement, et dans une époque où l'imprimerie n'existait pas. On copiait à la main. Et si j'ai un morceau gros comme la main, cela veut dire qu'autour de ce morceau, eh bien, il y avait tout l'Évangile. Autrement dit, ce n'est pas parce que je n'ai que quelques phrases qu'il ne vaut rien. Les quelques phrases sont un reste du livre intégral, intact. C'est le plus vieux livre que nous ayons. Ensuite, nous avons le plus vieux document que nous ayons. Ensuite, nous avons des copies plus partielles. Et puis voilà qu'arrive le 4e siècle. C'est très très vieux, vous savez, pour des textes anciens. Très très vieux, encore une fois. Nous n'avons pour aucun écrit profane des manuscrits qui soient aussi anciens. Nous avons du 4e siècle, du 5e siècle, 4 manuscrits complets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Autrement dit, 4 Bibles. Les plus connus sont le Sinaiticus et le Vaticanus. Le Vaticanus se trouve à la bibliothèque du Vatican et le Sinaiticus au British Museum. Vous savez que les Anglais aiment la Bible. Il a une histoire, ce Sinaiticus. Il se trouvait à la bibliothèque du monastère Sainte-Catherine au Sinaï, un monastère grec. Et les moines grecs passent pour ne pas être très, très, très instruits ni cultivés. Ils ont parfois des richesses en manuscrits qu'ils ignorent totalement. Alors au siècle dernier, un savant russe, si j'ai bonne mémoire, s'entreprit de faire l'inventaire des richesses du monastère Sainte-Catherine. Et il tomba sur ce très ancien manuscrit. Un manuscrit complet de l'Ancien et du Nouveau Testament, en grec. L'Ancien Testament se présente dans une traduction grecque, celle des Septante. C'est ce qui explique que le manuscrit s'appelle Sinaiticus. Il échoua chez le Tsar, et après la révolution de 1917, les Soviets qui avaient besoin d'argent mirent le Sinaiticus aux enchères. Et les Anglais, qui étaient riches à l'époque, l'achetèrent. Le Vaticanus et le Sinaiticus. Il y en a un autre qui est moins complet, mais qui est très ancien, qui s'appelle, il a un drôle de nom, mais c'est du latin, le Codex Bézé. Un codex, c'est un livre, comme nous les connaissons, dont on tourne les pages. Avant les codex, il y avait les volumes qu'on déroulait. Voyez-vous ? Alors c'est un codex. On l'appelle le Codex Bézé parce qu'il a appartenu pendant un certain temps à Théodore de Bèze. Alors Bézé, ça s'écrit B-E-Z-A-E dans l'A. C'est un génitif latin. Et puis ensuite, il y a des quantités de manuscrits. Alors les spécialistes se sont amusés, je ne sais pas si c'est un amusement, non, ils sont très très sérieux, à classer ces manuscrits en famille. Et comment les classent-ils ? Bien, à partir des fautes de copistes. Si vous trouvez une faute à tel endroit, qui se trouve répétée dans un certain nombre de manuscrits, vous pouvez penser que les autres manuscrits sont les enfants du premier. On a recopié la faute. Alors on peut faire des généalogies de manuscrits comme cela. Nous connaissons donc l'histoire des variantes, comme on dit. Bon, ces variantes sont très très peu importantes. Des textes très anciens, je crois que je suis encore bien bavard. Je suis dans mes préliminaires. Enfin, ça ne fait rien, je fais ce que je peux. Ces variantes sont rares. On peut même deviner pourquoi elles se trouvent là. Ça peut être une faute d'inattention. Ça peut être une faute méchante aussi. Si on tombe par exemple sur un manuscrit qui a appartenu à une secte hérétique. Ils modifiaient le texte, on devine pourquoi ils ont modifié le texte, pour le mettre d'accord avec leur doctrine. Quand ils estimaient que cela ne cadrait pas. Il peut y avoir des fautes qui ont été faites non pas méchamment, mais bêtement par de bons catholiques qui trouvaient que le texte était compromettant. Parce que l'exemple que je vous donne, je ne suis pas sûr que je ne l'ai pas inventé. Hein. J'annonce toujours quand je ne suis pas sûr de moi. Et quelque part dans l'Évangile, notre Seigneur parle et dit « Le Père est plus grand que moi ». Ça pourrait choquer un bon catholique qui a appris que les trois personnes de la Sainte Trinité sont égales. Alors, je ne sais pas si ça s'est fait, mais imaginez que vous trouviez Oui, vous êtes dans un monastère, là vous êtes entré très jeune, vous avez l'âme très pure, vous tombez sur ce texte, vous vous dites, ça n'est pas possible, on ne peut pas mettre cela entre toutes les mains. Alors, vous barrez la phrase. Enfin, grâce à cela, on peut faire l'histoire de ce manuscrit, si vous voulez. Donc, je conclue en disant que les variantes sont très très rares. Nous avons donc le texte original. Nous passons maintenant au personnage. Il faut absolument que je sois sûr d'eux. Je suis sûr du texte, si vous voulez, mais est-ce que je puisse être sûr du nommé Marc, de Luc, de Paul? Autrement dit, est-ce que ce sont des menteurs? Ils ont inventé ça, vous savez. Ou bien, est-ce que ce sont des fous? Ce ne sont pas des questions inutiles, parce qu'en principe, quelqu'un qui nous raconte de telles choses, c'est un menteur ou un fou. En principe, au premier abord. Si je... Vous en connaissez, vous savez. Ce que j'appelle un fou, c'est un fou au sens large, un illuminé, par exemple. J'en rencontre sans arrêt. Vous en avez vu aussi, des gens qui appartiennent à une secte. Il y a des quantités de sectes qui se caractérisent par leur côté ridicule, amusant, quelquefois. Par exemple, les amis de l'homme. J'ai connu une femme qui était amie de l'homme. Il y en a beaucoup comme ça, hein. Cette femme qui était amie de l'homme, j'en ai même connu deux. C'était deux femmes. C'est fou ce qu'il peut y avoir d'amis des hommes parmi les femmes. Les amis de l'homme, ils ont une sorte de pape qui s'appelle le cher berger. Et ce pape, il a une femme, c'est la douce maman. Hein? Et les deux ensemble, ça constitue le cher noyau. C'est beau ça, hein? Alors, je tombe sur des illuminés, ce sont pas des fous, si vous voulez, ce sont des gens qui égayent l'atmosphère. Alors, je lis Saint-Marc, Saint-Jean, Saint-Luc. Je n'ai pas de preuves à faire. Vous les connaissez, ces textes, on vous les lit de dimanche en dimanche à la messe. Est-ce que vous avez affaire à des illuminés? Est-ce qu'ils vous parlent du cher noyau? Non. Est-ce qu'ils vous annoncent comme... l'annonçaient les témoins de Jéhovah au siècle dernier, une ère de paix qui devait commencer en 1914. N'en parle plus à présent. Hein? Alors, c'est pas la peine que je vous le prouve, mais je voudrais simplement que vous compreniez que c'est très important. Il est très important de voir, de découvrir que ces écrivains n'étaient pas des illuminés. C'était des gens, au contraire, qui avaient les pieds sur la terre. Je pense par exemple à Saint-Marc. Saint-Marc, c'est le contraire d'un illuminé. Réellement. Saint-Luc aussi, d'ailleurs. Et puis, Saint-Matthieu de même. Et Saint-Jean, kiff-kiff. Ce ne sont pas des illuminés. Ce ne sont pas des fous. Est-ce que ce sont des menteurs? Il me semble qu'il ne faut pas que je prouve tout cela. Parce que cela ressort du texte. Est-ce qu'ils ont inventé tout ce qu'ils nous racontent? Pour nous faire marcher? Pour créer un parti? Là encore... Il suffit de lire 10 lignes pour comprendre que non, ce ne sont pas des menteurs. Alors, il faut que nous nous convainquions de tout cela. Après coup, si vous voulez, parce que vous et moi, nous avons la foi. Mais il est bon de comprendre que cette foi, de savoir une fois de plus, parce que nous le savons, que cette foi n'est pas idiote. Évidemment, c'est une foi surnaturelle qui nous a été donnée par Dieu, mais qui ne contredit en rien les faits. Et au contraire, les faits viennent l'étayer, la corroborer, cette foi. La prépare dans un système très logique. Toutes ces réflexions que je vous fais en ce moment devraient intervenir d'abord, et puis ensuite je me tourne vers Dieu et je dis, oh oui mon Dieu, c'est sûrement vrai, pof, la foi me tombe à ce moment là en fait, encore une fois, elle tombe très très souvent avant, c'est même la généralité des cas, parce que Dieu n'a pas notre logique, pas du tout. Donc je lis ces textes et je découvre que les écrivains ne sont ni des illuminés, des fous, ni des menteurs. Ce sont des gens qui sont francs comme l'or. Alors, je les crois. Je crois ce qu'ils me racontent. Alors, cela me porte maintenant, ça me conduit à ce personnage de Jésus. Ils me racontent l'histoire de Jésus. Ils me le présentent naïvement, me disent ce qu'il a enseigné, ce qu'il a fait, les miracles qu'il a accomplis. Le personnage de Jésus est assez impressionnant, vous savez. J'ai confiance en ses écrivains, je considère le personnage du Christ, je suis habitué à ce personnage, et je ne me rends plus compte qu'il est assez extraordinaire. Si vous lisez des livres sur Louis XIV, des livres de l'époque qui vous parlent de lui. Ce sera très différent, puis Louis XIV, vous le verrez, avec ses défauts, puis avec ses qualités. Pas mal de défauts. Vous le trouverez comme tout le monde, grand et en même temps petit. Je me rappelle avoir vu une caricature anglaise à ce propos, vous savez. Vous connaissez Louis XIV, Louis XIV en costume de sacre. Hein, je ne sais plus qui est, enfin le peintre est connu, mais son nom m'échappe pour le moment. Alors, le caricaturiste anglais, qui est un écrivain du siècle dernier, Thackeray, nous présente, alors c'est écrit en latin, et à Martier, Rex, alors on voit le costume, la perruque, tout, rien dedans, à la place des mains, il n'y a rien, le vide, à la place du visage, le vide. Et puis une image à côté, Ludovicus, alors on voit un pauvre petit bonhomme en caleçon, avec un bedon, pas de cheveux, un nez comme ça, et puis troisième gravure, Ludovicus Rex. Alors on a mis le petit bonhomme dans le costume, alors ça c'est le grand portrait. Voilà ce que vous diraient les écrivains d'époque sur Louis XIV. Les écrivains qui nous parlent de Jésus nous présentent un personnage assez extraordinaire, qui allie les perfections contraires. Il faut que vous sentiez cela. Quand vous parlez de quelqu'un qui a de l'autorité, eh bien... En principe, c'est quelqu'un qui a de l'autorité est par le fait même un peu dur. C'est l'envers de cette belle médaille. Alors vous dites de quelqu'un qu'il est vraiment très très bon. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas un peu poire. C'est aussi l'envers d'une belle médaille. Eh bien, le personnage qui nous est présenté par les évangiles est bon, mais pas poire. Il est juste, il sait faire acte d'autorité. Il n'est jamais dur, sauf quand il veut l'être. Et parce qu'il en est escompte de bons fruits. Un personnage impressionnant, si vous voulez. C'est le personnage de Jésus-Christ. Il me reste 7 minutes. Je passe à un autre point de vue. Je vous ai dit que ces miracles de Jésus étaient importants, qu'il fallait s'appuyer sur eux, pour croire ce que Jésus disait, parce que vous vous rappelez que toute notre foi repose sur le témoignage de Dieu lui-même. Pourquoi est-ce que je crois qu'il y a des anges? Pourquoi est-ce que je crois qu'il y a un enfer? Pourquoi est-ce que je crois qu'il y a trois personnes en Dieu? C'est parce que Dieu me le dit, en particulier c'est parce que le Dieu fait homme me le dit. J'ai donc besoin d'avoir confiance en cet homme. C'est pourquoi je vous ai raconté tout cela. Je dois ajouter d'ailleurs que cette confiance, cette connaissance de Jésus que je dois faire grandir, n'est pas seulement une connaissance intellectuelle. Il faut que je le connaisse tout personnellement. Parce que quand je le connaîtrai, je l'aimerai. Et c'est pourquoi il est nécessaire de prier fidèlement. J'encourage toujours les gens à faire une petite méditation tous les jours, parce que c'est en méditant qu'on en arrive à connaître ce Jésus. Et quand je le connaîtrai, je le croirai encore un peu plus. Ma foi deviendra plus solide. C'est lui qui est à la base de ma foi. Voyez-vous ? Alors, autre chose maintenant. Il y a des gens, actuellement en particulier, parce que nous vivons une époque trouble, qui croient n'importe quoi pourvu que ce soit merveilleux. Il y a des apparitions partout, de la Sainte Vierge, surtout. Certaines sont vraies, je ne sais pas lesquelles. C'est vrai, je ne sais pas lesquelles. Tout pendant que l'Église ne s'est pas prononcée, tout pendant qu'une enquête sérieuse n'a pas été faite, je ne peux pas savoir si c'est vrai. Et la Sainte Vierge ne m'en voudra pas si je suspends mon jugement jusqu'à plus ample informé. Si je vous raconte tout cela, c'est tout simplement parce que je voudrais que vous soyez très raisonnable. Autant je crois Jésus parce qu'il a fait des miracles, et il fallait qu'il en fît pour que je le crusse. Autant je n'ai pas à croire ce que dit n'importe qui s'il ne me donne pas de preuve. Si la... je vais avoir l'air de la prendre légèrement, la Sainte Vierge. Mais si la Sainte Vierge apparaît, si elle veut que je le croie qu'elle est apparue à tel ou tel, elle se doit de me donner des preuves. Et elle le fera. Elle le fera. C'est son devoir de le faire. Parce que si je crois sans preuve, eh bien, je suis un individu flasque. Il ne faut pas être un individu flasque. Je voyais une personne, il n'y a pas très longtemps, vous avez dû voir ce texte qui traîne partout, ça n'a rien à voir avec la Sainte Vierge, mais c'est une liste de cardinaux, d'évêques, de grands personnages de l'Église, dont on nous dit qu'ils appartiennent à la franc-maçonnerie. Alors j'ai lu ça, et j'ai dit à la personne qui me le montrait, mais comment voulez-vous que je le croie ? C'est possible, mais il n'y a aucune preuve. Et elle m'a répondu, alors je n'ai pas poursuivi mon raisonnement, elle m'a répondu, mais il y a les dates de leur affiliation. Oh, ben je dis, alors, s'il y a les dates, en effet. Mais bon, il ne faut pas croire sans preuve. Non, pas le droit. Et encore une fois, ni notre Seigneur ni la Sainte Vierge ne nous en voudront si nous sommes sur ce point très sérieux. Je vous rappelle que si un jour vous voyez la Sainte Vierge, ce n'est pas impossible, ou Saint Joseph, vous êtes tenu, vous êtes tenu d'en parler à votre confesseur ou à monsieur le curé, même si monsieur le curé ne vous plaît pas, parce que c'est la grande manière. Rappelez-vous Lourdes. Lourdes, c'est bien important, ça. Hein, ce que demandait la Sainte Vierge à Sainte Bernadette. Allez dire au prêtre que je veux qu'on vienne ici en procession et qu'on y construise une chapelle. Elle n'a pas dit à Sainte Bernadette, organiser une quête et puis nous allons nous arranger toutes les deux. La Sainte Vierge n'a rien contre l'Église que son fils a établie. Et j'aime beaucoup le curé de Lourdes, Père Amal, parce qu'il ne croyait pas jusqu'à ce qu'il ait des preuves. Il demandait d'ailleurs des preuves un peu idiotes au début, parce qu'il demandait des preuves qu'il choisissait lui. On n'a pas d'ordre à donner à la Sainte Vierge. On peut dire à la Sainte Vierge, je ne demande pas mieux, je veux bien croire, mais j'attends les preuves. Choisissez vous-même. Il ne disait pas cela. Il disait, ta dame, je croirais qu'elle t'apparaît, qu'elle existe quand elle aura fait fleurir l'églantier. L'églantier n'a jamais fleuri. Seulement il y a eu une source, il y a eu des miracles, il y a eu tout cela. Et Sainte Bernadette consultait le curé de Lourdes. Cela lui coûtait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aller dire au prêtre, pour elle, il n'y avait pas 36 prêtres, il y avait le curé de Lourdes et ses vicaires. Elle a trouvé le curé qui lui faisait très peur. C'était une espèce d'armoire à glace et il parlait, il faisait partie de ces gens dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont durs, mais par le fait même bon curé, plus qu'autoritaire, si vous voulez. Il n'était pas tendre. Plus tard, Sainte Bernadette se prendra à l'aimer, parce qu'elle découvrira derrière cette écorce rude quelqu'un de très bien. Mais elle allait le trouver. Après chaque apparition où la Sainte Vierge lui avait dit « Dites ceci au prêtre », elle allait trouver son curé. Et puis finalement, vous savez, si la Sainte Vierge qui apparaît, ou notre Seigneur qui apparaît, veulent que cela réussisse, eh bien ça réussira. Ils prendront les moyens. Ils feront changer l'esprit du curé de Lourdes, et puis ils donneront des signes. Les signes sont nécessaires. Alors soyons des hommes et des femmes de foi, ayons beaucoup de foi, mais ne soyons pas des êtres crédules. Ne croyons pas n'importe quoi. D'abord parce que nous rendrions ridicules, et puis ensuite, à force de découvrir que nous nous trompons, nous finirions par douter de ce dont il ne faut pas douter, et qui est tellement solide.